Europe 1.
14h-15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour, soyez les bienvenus sur Europe 1 pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma chaque samedi pendant près d'une heure. Le cinéma, je le fais sur grand écran, pas dans la vie, disait Louis de Funès. Alors justement, quel film mérite d'être vu sur grand écran ? C'est de tout cela dont on va vous parler dans Clap. Alors dans la première partie, je reviendrai sur l'incroyable succès dans les salles de ce début d'année. Je suis sûre que vous avez suivi. C'est Spider-Man. Plus qu'un succès, c'est un raz-de-marée. Le film a franchi le milliard de dollars de recettes dans le monde entier. Comme chaque semaine, Didier Allouche nous parlera des news d'Hollywood et je crois qu'Omicron fait de sérieux dégâts. À 14h20, je recevrai l'une des plus grandes actrices du cinéma français. Elle a tourné avec Carax, Téchiné, Rapneau, Lecomte, Haneke, Assayas, Cronenberg ou encore Claire Denis. C'est une actrice au tempérament affirmé, mais surtout à la brillante carrière. Elle est d'ailleurs l'une des actrices les plus récompensées au monde. C'est Juliette Binoche et nous parlerons ensemble de la sortie de Ouistreham, film adapté du roman de Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham. Enfin, en compagnie de mes Batman et Robin de la radio, je parle bien sûr de Franck Vallière et Victor Bonnefoy. Nous vous présenterons les films à voir ce week-end au cinéma. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Une combinaison bleue et rouge, une cagoule et des millions de dollars de recettes au box-office. Oui, c'est bien de Spider-Man dont nous allons parler. C'est le succès incroyable du moment. Spider-Man No Way Home, en seulement 3 semaines, a déjà rassemblé 5,6 millions de spectateurs et engrangé plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde entier. 1,37 milliard de dollars exactement, au jour où je vous parle, hein, parce que ça change tous les jours. D'ailleurs, le film est devenu le 12e plus gros succès de l'histoire du cinéma mondial et je pense qu'il va encore grimper. C'est incroyable. Aucun film n'avait rassemblé autant de spectateurs depuis l'apparition de la crise du Covid il y a 2 ans. Et selon les spécialistes, le film devrait finir sa carrière à plus de 7 millions d'entrées. Alors comment expliquer un tel phénomène, un tel raz-de-marée avec nous cette semaine ? Stéphanie Belpech, vous êtes journaliste au Journal du Dimanche. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Laurie.
Merci d'être là. Déjà, est-ce que vous aviez aimé Spider-Man ?
Moi, j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que déjà, c'était le film le plus attendu de cette fin d'année. Une réussite totale, un spectacle généreux, galvanisant, décomplexé, qui comble les attentes des fans et plus encore. Parce qu'il renoue vraiment avec l'ADN de Peter Parker, c'est-à-dire sa tragédie, sa crise existentielle, sa solitude, mais aussi son extrême bienveillance. Voilà, c'est que des valeurs positives qui sont célébrées dans ce film, l'héroïsme, la solidarité, la rédemption. Et je pense que voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles le public adore ce film.
Oui, alors j'allais dire, qui aurait pu imaginer un tel succès ? Est-ce que vous comprenez ce raz-de-marée ? Vous venez un peu d'y répondre.
Complètement. En fait, comme je vous ai dit, c'était un des films les plus attendus, tout simplement, parce que dans Spider-Man Far From Home en 2019, on nous avait laissé en plein suspense, c'est-à-dire avec un super-héros stupéfait, après que le monde a découvert sa véritable identité. Donc ça ne pouvait pas être pire comme point de départ. Et voilà, là, effectivement, le personnage, on découvre qui gagne en profondeur et en dramaturgie, celui incarné par Tom Holland. Et le scénario joue clairement aussi sur la carte de la nostalgie, puisqu'il multiplie plein d'apparitions surprises. Alors on ne peut pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Mais c'est vrai que voilà, certains disent que ça fait du fan service, mais on est vraiment content qu'ils le fassent, en fait.
D'ailleurs, je crois qu'ils ont eu du mal à convaincre certains acteurs des précédents opus de revenir, mais c'est vrai qu'au final, il y a pas mal de gens qui sont là. Mais c'est vrai que vous parliez de films attendus, il y a eu des films comme Dune, comme le James Bond, enfin, il y en a eu d'autres, des films très attendus cette année, et finalement, qui n'ont pas explosé le box-office comme le fait Spider-Man.
C'est vrai que le film, là, il a vraiment battu tous les blockbusters américains depuis, mais même on remonte à Tenet, qui était censé ramener le public en salle. Finalement, il n'a fait que 2,3 millions d'entrées. Alors certes, il était connoté auteur, comme Dune de Denis Villeneuve, qui a culminé à 3,5 millions. Par contre, effectivement, James Bond, on était peut-être en droit d'espérer mieux que 4 millions d'entrées, d'autant que c'était un des premiers films à être déplacé en raison de la crise sanitaire.
Et c'était la conclusion de l'ère, en plus, Daniel Craig. Donc,
c'est vrai,
très,
c'est vrai.
Très attendu. Alors, j'ai évoqué quelques chiffres. Stéphanie, justement, est-ce que vous en avez d'autres ? Et comment est-ce qu'on peut analyser ces chiffres ?
Bah, moi, je trouve ça très logique. Hein. Et quand on compare avec Les Éternels, qui est le précédent Marvel de Chloé Zhao, alors là, pour le coup, aussi très connoté cinéma d'auteur, qui n'a fait que 1,7 million d'entrées. Donc là, c'est le bouillon, on va dire, pour Marvel et Disney, qui en attendaient beaucoup plus. Et c'est encore pire, malheureusement, pour Matrix Résurrection, qui est à 700 000 entrées, vous vous rendez compte, n'a pas
atteint... Qui était pourtant l'un des gros coups de cœur de Victor Bonnefoy.
Mais oui, mais le mien aussi, dernière partie mais d'émission. Oui, tout à fait, mais le film est très bien. Mais voilà, Matrix Résurrection, 700 000 entrées. SOS Fantôme 3, 605 000 entrées.
Oui, et là, c'est clairement un échec.
Et le pire, c'est Kingsman, malheureusement, le préquel, à peine 300 000 entrées. Alors là, c'est terrible.
Bah, ce sont des films à gros budget, donc c'est vrai que c'est clairement des très, très, très gros échecs et pas du tout ce qu'ils espéraient.
Bah, et la preuve aussi que, je veux dire, les distributeurs disaient le public, avec la crise sanitaire, ne va plus au cinéma, a pris l'habitude de regarder les plateformes comme Netflix, Amazon, OCS, que sais-je. Mais la preuve que si le public est motivé pour aller voir un film, en dépit de la flambée de Covid-19, il y va. Et Spider-Man le prouve. Et en plus, il y avait une multiplication des sorties avant le 31 décembre, puisqu'on sait qu'il fallait écluser vraiment tous les films qui avaient été repoussés voilà, avant la fin de l'année. Et troisième chose, la couverture médiatique, comme vous et moi, nous n'avons pu voir le film que la veille de la sortie officielle, puisque nous avions un embargo critique. Donc on a pu faire nos articles que le mardi précédant le mercredi, mais ça n'a rien changé. C'est-à-dire que le public était décidé, c'était le film qu'il voulait voir absolument. Et en plus, dans un parc de salles extrêmement attractif. Moi, je vois beaucoup des commentaires de personnes qui sont allées « Ah, j'ai préféré le son Dolby Atmos ou l'IMAX 3D ou la 4DX ». En plus, il y a un choix cinéphile assez exigeant. C'est ça qui est assez fort, en fait.
Oui, on peut choisir dans quelles conditions sonores, visuelles, vraiment, on a envie de voir le film. Après, c'est vrai que ça fait partie de ces films qui se voient sur grand écran.
Ah bah, c'est sûr.
Si on aime ce genre, il faut absolument le voir au cinéma. Et puis, c'est un film qui rassemble toute la famille.
Exactement.
Petits et grands.
Exactement. Bah, c'est le plus frappant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les fans inconditionnels de Marvel, évidemment, qui, eux, attendaient le film comme le Messie, mais les enfants, parce qu'il y a une quasi-absence de violence, hein, il faut le dire. Les adolescents, bien sûr, leurs parents, et même les grands-parents. Enfin, moi, j'ai assisté à une projection publique, je suis retournée le voir en salle, et il y avait des plus de 75 ans dans la salle, donc pour vous dire, mais c'est la vérité. Donc je me dis que voilà, c'est fédérateur, et en plus ça correspond à un besoin d'évasion, je pense, des spectateurs qui ont vraiment, particulièrement en ce moment, dans cette période compliquée, envie de voir d'autres horizons, et pourquoi pas les péripéties d'un super-héros au marié, quoi.
Oui, et puis un super-héros auquel on peut un peu s'identifier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir invité, Laurie.
Et dernière question, alors quel est votre Spider-Man préféré ?
Alors moi, ça restera à jamais Spider-Man 2 de Sam Raimi, justement, avec Octopus et Tobey Maguire, qui était sublime. Moi, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est vrai.
Voilà, vous pouvez revoir tous les Spider-Man. Et puis, si vous n'avez pas vu encore Spider-Man No Way Home, à mon avis, il va rester un petit moment dans les salles.
Je pense aussi. Hier, j'ai regardé sur Allociné, il y avait encore 995 séances. Donc, à mon avis, voilà, il y a encore beaucoup de possibilités.
Vous avez le temps.
Exactement.
Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, lui, il n'a pas le costume de super-héros, mais il est tout aussi puissant. C'est Didier Allouche qui est avec nous pour son JT d'Hollywood. Et vous allez voir qu'à Hollywood, Omicron fait des dégâts. Bonjour Didier.
Salut Laurie, salut à tous. Ladies and gentlemen, let me invite you to the Omicron Hollywood Tour. Ça veut dire, mesdames et messieurs, laissez-moi vous inviter à la tournée Omicron à Hollywood. Oui, la petite bestiole qui nous empoisonne la vie depuis presque 2 ans maintenant, ou plutôt sa version 2.0, 3.0, 4.0, je sais plus. Elle est arrivée chez nous et du coup, ça cancelle pas mal ici, pardon. On annule presque tout ici. Les Grammy Awards, les Oscars de la musique devaient avoir lieu le 31 janvier 2022. Ils ont été repoussés à un jour, peut-être. Et c'est pareil pour les Critics' Choice Awards, les prix les plus importants remis par la presse hollywoodienne aurait dû être décerné demain. Ce sera, on ne sait pas trop quand. Idem pour le Governors Ball, les Oscars d'honneur pour aller vite qui sont eux aussi repoussés à on verra bien quand. Côté festival, ça cancelle pas mal aussi. Le festival de Palm Springs, d'habitude le premier événement de l'année, a carrément été annulé. Et on vient d'apprendre que le festival de Sundance n'aura pas lieu comme d'habitude à Park City dans les montagnes de l'Utah, mais dans mon salon. Le plus grand festival américain de l'année devient une manifestation online, donc à la maison, sur mon canapé, l'ordinateur à la main. Je vais donc laisser ma doudoune pour la deuxième année consécutive dans le placard. Les films aussi souffrent. Morbius, film Marvel de la famille de Spider-Man avec Jared Leto en super-héros vampire, pourrait même battre le record de la sortie de film la plus repoussée à cause du Covid, détenu jusque-là par le James Bond, Mourir peut attendre. Morbius aurait dû sortir le 10 juillet 2020, puis le 31 juillet, ensuite il fut annoncé au 19 mars 2021, puis repoussé au 8 octobre et de nouveau repoussé au 21 janvier 2022. Il sortira finalement, enfin normalement, le 1er avril 2022. Ce n'est pas une blague, c'est sa 6e date de sortie. Encore une et il battra James Bond. Vas-y Morbius, tu peux le faire. L'un d'entre vous aurait-il la date de la fin de la tournée Omicron? Parce que bon, là...
Merci Didier, à la semaine prochaine. Alors d'ailleurs, en parlant de prix, comme à chaque début d'année, les Golden Globes vont lancer demain soir à Los Angeles la traditionnelle saison des récompenses. Pour rappel, les Golden Globes, ce sont donc les journalistes étrangers installés aux États-Unis qui votent pour les meilleurs films de l'année. Parmi les favoris, on retrouve Belfast de Kenneth Branagh ou encore The Power of the Dog qui ont récolté d'ailleurs chacun 7 nominations. Et nous, en France, nous avons également une cérémonie similaire. Ça s'appelle Les Lumières et j'aurai le plaisir de présenter cette cérémonie qui se tiendra le 17 janvier sur Canal+. Et là, parmi les favoris, on retrouve Illusion perdue avec 5 nominations, suivi de L'Événement d'Audrey Diwan avec 4 nominations. Évidemment, on vous dira tout également dans Clap. Et puis derrière, 2 cérémonies qu'on attend tous, les Oscars le 27 mars et un mois plus tôt, le vendredi 25 février, les Césars sur la scène de l'Olympia, retransmis sur Canal+ et présenté par Antoine Decaune. Alors, s'il faut patienter jusqu'au 26 janvier pour connaître la liste des nominés, l'Académie des Césars a déjà annoncé qu'un César d'honneur sera remis à l'immense Cate Blanchett. Et ça, ça nous fait plaisir parce que vraiment, on l'aime beaucoup.
Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous à l'écoute d'Europe 1. Et cette semaine, j'ai la chance d'être en compagnie de l'actrice Juliette Binoche. Bonjour Juliette.
Bonjour Laurie.
Et bonne année, puisque nous sommes au mois de janvier.
Bonne année.
Alors,
à vous.
Juliette, vous serez à l'affiche d'un film que j'ai adoré, Ouistreham, qui sort le 12 janvier. C'est l'adaptation du roman de Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, paru en 2010. Livre dans lequel Florence Aubenas en fait, s'était glissée dans la peau d'une femme de ménage, allant de petit contrat en petit contrat. Elle en a fait un livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la découverte de ce récit? Puisque je sais que vous êtes à l'initiative en fait, de cette adaptation pour le cinéma.
Quand j'ai lu le livre, je me suis dit qu'il faut absolument... réaliser un film à partir du livre. J'avais été très touchée par ce passage qui parle des invisibles. Mmh. Et j'avais compris, parce que, en fait, le réalisateur Cédric Kahn m'avait appelé pour voir si j'étais intéressée pour faire ce film. Et puis, une semaine après, il m'a dit, écoute, Florence Aubenas ne veut pas vendre ses droits, donc c'est impossible. Et je me suis dit qu'à cela ne tienne, donc je l'ai appelé et je lui ai dit, je lui ai demandé quoi, pourquoi c'était si important. Et puis au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, si Emmanuel Carrère veut adapter le livre, je ne suis pas contre. Donc à ce moment-là, j'ai appelé Emmanuel, on s'est vus et puis il m'a dit, oulala, je suis en pleine écriture de son roman Le Royaume. Mais elle m'a dit, peut-être plus tard, on en reparlera. Et on s'est revus, donc Florence, Emmanuel et moi. Et au fur et à mesure du temps, ça a fait son chemin dans la tête d'Emmanuel et de Florence aussi. Et puis, ensuite, Emmanuel a écrit l'adaptation et il a mis en scène le film. Voilà, ça s'est passé sur une longueur de 2 ans et demi. Où il fallait, avec un peu de péripéties quand même, avec des résistances à droite, à gauche.
Mais un bon timing.
Un bon timing, oui. Voilà, ça s'est passé... d'une façon assez douce. Et ensuite, Emmanuel est allé tous les mois à Caen pour travailler avec les filles, les choisir, faire des essais, discuter et choisir les bonnes personnes. Et c'est vrai que le casting, le choix des acteurs et des actrices qui sont non-acteurs et non-actrices au départ, mais qui le deviennent grâce à ce film, on sent qu'il y a une... que chacune a son caractère, a sa place, et chaque, quand on a tourné, chaque scène était vraiment liée à cette personne. Je pense qu'Emmanuel a aussi écrit pour ces personnages, et il a construit le scénario d'une façon un peu différente du livre. D'abord, je ne m'appelle pas Florence, je m'appelle Marianne dans le film. Oui, c'est un écrivain, ce n'est pas une journaliste, alors c'est un peu différent quand même, mais... On sort du film avec un questionnement, un questionnement d'abord parce que Marianne dans l'histoire, elle se fait passer pour une femme qui a été quittée par son mari, qui est divorcée, qui a pas de diplôme et qui cherche un
et
emploi.
Qui repart à zéro.
Et qui, comme si elle repartait à zéro, alors qu'en réalité elle est journaliste. Donc cette vérité biaisée ou ce mensonge, il est vécu différemment au moment où elle se rend compte de la vérité. Et le film raconte cette histoire-là.
C'est vrai que le film est bouleversant. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, effectivement, ce choix d'actrice non professionnelle, justement, comment ça s'est passé concrètement avec ces femmes pendant le tournage? Comment est-ce qu'elles se sentaient face à vous? Parce que non seulement elles sont non professionnelles, mais elles se retrouvent face à Juliette Binoche, qui est quand même l'une des plus grandes actrices françaises.
Dès le départ, moi, je suis arrivée la veille du tournage. Et je suis arrivée KO. J'étais fatiguée, grippée. J'étais en train de perdre mon père. Enfin, j'étais vraiment dans un tunnel pas évident. Et elles m'ont accueillie d'une façon très tendre, enthousiaste, les bras ouverts. Hélène, qui joue Christelle et donc qui est le personnage, qui est mon amie dans le film. Hélène, elle avait un petit peu plus de... Elle me jaugeait un peu. Elle voulait voir un peu qui j'étais. Et au bout de quelques jours, surtout comme on a tourné chez elle avec ses enfants, il y a un moment donné, ça s'est retourné et elle a ouvert son cœur. C'est quelqu'un qui donne son amitié, mais qui aime, qui a une certaine épreuve avant de se de donner complètement sa confiance.
Finalement, ça rejoint complètement le propos de Florence et la réalité de cette histoire. Comment est-ce qu'elle a supervisé tout ça, Florence Aubenas? Est-ce qu'elle vous a laissé complètement libre ou est-ce qu'elle est intervenue sur le tournage?
Elle n'est pas du tout intervenue sur le tournage. Elle n'a même pas lu l'adaptation du livre. Elle a vu le film à la fin, mais elle a été magnifiquement absente. Mais je crois que c'était pour laisser place aussi à Emmanuel, à moi, à tout le monde. Mais à la fois, elle a donné à Emmanuel le téléphone d'une personne avec qui elle a travaillé pendant qu'elle était à Caen en train de vivre cette expérience-là, qui s'appelle Evelyne. Et Evelyne Poré, et elle a donné ce fil d'Ariane pour que Emmanuel puisse remonter un peu à la source de son expérience. Et il y a aussi Émilie qui joue dans le film et qui a travaillé avec Florence quand elle est allée il y a une dizaine d'années à Caen et sur les ferries pour travailler.
Ah, voilà, justement, je voulais vous demander si vous saviez si les femmes de ménage que Florence avait pu rencontrer avaient vu le film et comment elles avaient accueilli le projet.
Elles ont été très heureuses. Très heureuses, je pense. Je me souviens la première projection qu'on a dû faire près de Caen. Elles étaient. Moi, j'ai senti qu'elles étaient très heureuses, oui. Puis elles ne viendraient pas comme ça à Paris ce soir, la première du film à Paris. Elles ne viendraient pas comme ça si elles n'étaient pas totalement heureuses.
C'est vrai que le film est très réussi. Et Emmanuel, il a cette façon de mélanger une matière de documentaire dans un film de fiction. Il y a vraiment des passerelles. On a l'impression d'être Voilà, toujours un petit peu entre les deux. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux? Quelle était son envie?
Je crois que toutes les scènes dans le film, elles sont recréées. Hein. Il y a pas, on a recréé la sensation du documentaire. Mais à la fois, c'était très bien documenté, notamment parce que les actrices ont vécu et vivent cette réalité-là. Je sais par exemple que Émilie, elle m'a appris à faire les lits sur le ferry et la cadence du travail aussi, elle m'a montré comment ça se passait, comment utiliser les balais, les gants, les produits, ça Patricia m'a montré, Léa m'a montré, enfin j'ai appris sur le tas, comme Florence a dû apprendre aussi sur le tas
quand elle est en immersion, bien sûr.
Ouais.
On est conscient de cette réalité, plus ou moins, mais est-ce que vous étiez conscient de cette difficulté à ce point, de ce quotidien?
J'ai appris des choses. Ouais, j'ai appris des choses. Le fait de courir ou de marcher, de ne pas avoir de voiture ou de devoir aller loin pour aller travailler dans la nuit, le matin, en pleine nuit, dans le froid, faire des kilomètres à pied avant d'aller faire une ou deux heures de ménage, ça, je ne savais pas que c'était aussi difficile que ça. Et puis de courir à droite, à gauche pour pouvoir remplir un maximum son calendrier pour pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. Et c'est souvent... D'ailleurs, elle le décrit très bien, Florence, dans son livre. Elle arrive à peine, je crois, si mes souvenirs sont bons, à 800 euros en travaillant comme une dingue.
Et puis en n'étant pas respectée, c'est aussi ce que vous dites, c'est changer aussi l'attitude des gens envers ces personnes. Il y a cette scène dans le film où elle se fait virer, où le patron lui dit ne cherchez pas à faire l'éducation des gens qui en ont plus que vous.
Ouais.
C'est tellement affreux.
Ouais. Ouais. Et c'est, je pense que c'est une réalité, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on appelle éducation, ça dépend ce qu'on appelle... Voilà, c'est... Mais c'est vrai que l'envie de faire ce film aussi, c'est de montrer les invisibles et de... C'est vrai qu'une parole, un regard, ça peut être des choses très simples. Ne serait-ce qu'une présence d'inclure quelqu'un plutôt que de l'exclure parce qu'on est gêné. Ou alors de laisser derrière soi un lieu qui n'est pas chaotique où on s'en fout, où on pense qu'il y a quelqu'un qui passera de toutes les façons derrière pour ramasser ses... Oui. Sa poubelle. Et ses... Donc, c'est d'être lié à l'autre, même dans l'invisible, afin qu'il y ait un respect. On peut dire vraiment, c'est un mot qui prend vraiment son sens dans cette situation-là.
Ce qui est beau dans ce film, un petit peu en deux parties finalement, c'est qu'on voit à travers de votre personnage qui se lie d'amitié, mais finalement via un mensonge en fait, toute la complexité de cette situation. Est-ce que vous avez compris la démarche de Florence de s'immerger tout en mentant? Est-ce que vous avez compris aussi les réactions de ses collègues femmes de ménage à l'époque? Enfin voilà, quel est votre point de vue par rapport à cette situation?
C'est vrai qu'on l'appelle mensonge, et au départ moi j'avais un peu de mal parce que je dis c'est pas un mensonge pour tromper, pour faire du mal.
C'est un
mensonge pour faire voir, pour faire comprendre à travers une œuvre ce qui se passe. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est comment être au plus proche de la réalité de ces personnes-là, comment comprendre ces personnes-là au plus proche de leurs difficultés pour pouvoir le retranscrire dans une œuvre, un livre ou un film. Et ça m'a fait penser, quand j'ai fait Les Amants du Pont-Neuf, par exemple, la préparation que j'ai pu vivre, il y avait des personnes qui ne savaient pas que j'étais actrice. Et à la fois, si elles avaient su que j'étais actrice, peut-être que leur comportement n'aurait pas été, entre guillemets, normal. Voilà. Donc, je comprends totalement ce que fait Florence. Et à la fois, le fait que la personne en face se sente biaisée, se sente trompée, je le comprends aussi, parce qu'on n'a pas forcément la capacité à recevoir ce genre de retournement de situation où tout d'un coup quelqu'un qu'on croyait ami dans la merde dans la même situation tout d'un coup en fait est journaliste aisé libre et retourne à sa réalité. Donc je comprends les deux côtés, finalement.
En tout cas, c'est vraiment un film nécessaire. J'espère que c'est... Déjà, le livre a fait bouger un peu les mentalités, mais j'espère que ce...
Et pas seulement les mentalités, les réalités. C'est-à-dire que maintenant, les droits Je crois que sur le nombre de lits ou de cabines à nettoyer, il y a moins de cabines à nettoyer qu'avant. Et je crois, sur le salaire, ça, je ne sais pas si ça a changé, mais je sais qu'il y a certaines conditions qui ont changé depuis le livre.
Et oui, on le dit souvent dans cette émission, le cinéma peut faire bouger les choses. Et c'est bien, c'est important. Alors Juliette Binoche, avant de se quitter, est-ce que je peux vous demander si vous vous souvenez de votre première grande émotion au cinéma ?
Oui, j'avais 6-7 ans et j'ai vu les courts-métrages de Charlie Chaplin.
Et alors, j'étais... vous avez ressenti quoi ?
J'avais froid aux pieds. Parce qu'il faisait froid et dans le cinéma, il n'y avait pas de chauffage. Mais je me souviens de pleurer et de rire en même temps. Et ça m'avait scotché d'avoir ces deux émotions et d'être complètement fascinée par son génie. Hein. Il avait quand même une intuition incroyable.
Ça vous a donné envie de faire du cinéma ou vous aviez déjà l'envie de faire
ce
métier ?
Non, pas du tout. Non, non. Mais la petite histoire, c'est que mon père était ami avec une de ses filles, Victoria, et qu'on a passé Noël. J'ai vu Charlie Chaplin quand j'avais 9 ans. Je me souviens, dans la voiture, on avait une aronde. Enfin, mon père avait trouvé une aronde qui ne marchait pas. On devait s'arrêter, ça fumait. Enfin, on avait peur que ça explose. Et je me souviens que mon père et ma sœur me disaient « On va aller voir Charlie Chaplin ». Et je dis « Mais c'est qui Charlie Chaplin ?» Et mais si, tu connais. Et je n'arrivais pas à comprendre le mot. Et arrivé à Vevey, devant leur maison, on passe la grille. Et il me dit « Mais si, Charlie Chaplin, Charlot ». Et là, Charlot, tout d'un coup, ça a tout débloqué. Et j'ai vu un vieux monsieur qui marchait. Et m'ont dit, tu vois, c'est lui, le monsieur, là. Et j'ai pointé du doigt. La fenêtre était ouverte. Et en criant Charlot à la fenêtre, il s'est retourné. Il était avec sa femme. Il marchait autour d'un plant de fleurs, là, d'un massif de fleurs. Et voilà, c'est la petite histoire, c'est que ça a marqué ma vie quelque part, mais jamais j'ai pensé que je serais actrice. J'étais loin de ces idées-là.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap sur Europe 1. On va maintenant parler des films qui sortent en salle cette semaine. Alors au programme, des histoires d'amour, ça on aime beaucoup. Et puis un thriller, des espionnes, une fratrie inoubliable. Est-ce que j'oublie autre chose ? Bon, de toute façon, ils vont tout nous dire puisqu'ils sont à mes côtés. Je disais en début d'émission, mais Batman et Robin de la radio, Victor Bonnefoy et Franck Vallière.
C'est de pire en pire.
J'ai failli marcher sur ta cape, Victor. Tu pourrais la ranger mieux, s'il te plaît ?
Avec ma belle tenue qui moule mes pectoraux. Oh là là, Franck.
J'essaye de vous surprendre cette semaine et visiblement ça marche. Bon allez, un mot sur le box-office. Alors évidemment, on en parlait en début d'émission, l'indéboulonnable Spider-Man, à mon avis, pour plusieurs semaines encore, qui a attiré donc pour sa troisième semaine d'exploitation 1 million de spectateurs et cumule déjà en seulement 3 semaines plus de 5,6 millions d'entrées. Je pense que c'est quand même assez dingue. Victor, je ne vais pas vous demander si vous êtes content.
Je suis content pour les salles de cinéma et pour les exploitants. Ça fait toujours plaisir de voir des salles pleines. Ce serait bien que des fois, ce soit pour des bons films.
Voilà, bon, je rappelle que Victor n'avait pas aimé. Mais bon, visiblement, ce n'est pas l'avis de la majorité. À la deuxième place, Tous en scène 2, avec 614 000 entrées, un film d'animation qui a donc séduit à ce jour 1 787 000 spectateurs pendant près de 2 semaines, pendant les vacances de Noël. Donc, on est bien content pour eux. Et puis, sur la troisième marche du podium, une nouveauté, Kingsman, avec 336 000 tickets vendus, enfin un peu plus, quasiment 340 000. Et le quatrième du box-office, L'Étuche 4, qui, un mois après sa sortie, a fait rire plus de 2 200 000 Français. Alors c'est vrai qu'on est loin du score d'Étuche 3, mais on rappelle le contexte, donc c'est déjà très très bien.
C'est vrai que moi j'avais fait le pari de 5 millions avant les fêtes, mais bon, c'est le contexte, c'est uniquement le contexte, parce qu'il y a tout, le conte de Noël, on fédère, c'est une suite, donc ça aurait dû beaucoup plus cartonner, je suis persuadé que ça va rester encore assez longtemps en salle.
Alors on commence le journal des sorties avec en attendant Bojangles, folle histoire d'amour, Virginie Efira qui partage l'affiche avec Romain Duris et Grégory Gadebois. Dans ce film qui est l'adaptation du best-seller d'Olivier Bourdeau par Régis Roinsart. Alors je vous rappelle l'histoire, c'est celle de Camille et Georges qui s'aiment éperdument, qui veulent échapper à la réalité à tout prix, qui n'ouvrent pas leur courrier, ça c'est pas bien, qui se donnent un prénom différent plusieurs fois par jour, ils vivent au rythme des soirées, ils dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Mr. Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis, mais malheureusement, tout ça a une limite.
Je n'y pensais même pas. Elle va vous faire perdre la tête.
Je jure d'aimer toutes celles que vous serez, de les accompagner partout où elles iront.
Partout.
Absolument. Partout.
Dis, papa, elle est malade, maman.
ni plus ni moins que la plupart des gens. Tu sais, les grands sont tous un peu malades. Hein.
Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire.
Alors avant d'écouter les réactions à la sortie des cinémas, Victor Bonnefoy, vous en avez pensé quoi ?
Alors assez rapidement, moi je suis content de redécouvrir le cinéma de Régis Transard qui m'avait énormément déçu à l'époque avec les traducteurs. Et là j'y trouve une certaine envolée lyrique, un certain côté romanesque qui me plaît beaucoup. Et je dois bien avouer que oui, le film possède des problèmes de rythme, mais il est emporté par la beauté de ses comédiens, par notamment le talent de Virginie Efira qui ne cesse de briller à l'écran, entouré en plus de Romain Duris, de Grégory Gadebois qui sont des gens qui me passionnent. C'est un vrai bon petit moment que ce Bojangles, hors de la réalité. Et puis finalement, la réalité finit toujours par nous rattraper. Et comment allons-nous survivre face à elle ?
Allez, on écoute vos réactions.
J'avais lu le livre, mais je ne suis pas déçue par le film. Ils sont tous les deux très bons, mais Romain Duris, encore magnifique.
Duris et Efira, très très bien. Puis il y a ce côté, ce qui m'a séduit aussi, c'est ce côté dense qu'on voit tout au long du film. Et en même temps, ce côté festif est contrebalancé par l'histoire triste de cette femme.
Magnifique. Beaucoup de danse, beaucoup d'émotions. Très beau film.
Oui, parce qu'on rappelle que c'est l'histoire d'une femme bipolaire à une époque où on ne soignait pas ce type de maladie. Voilà, donc c'est à voir en ce moment au cinéma. On continue avec un petit bijou signé Paul Thomas Anderson. C'est Licorice Pizza. Paul Thomas Anderson, à qui l'on doit Punk Drunk Love ou encore Magnolia, pour ne citer que. Alors, un mot sur le film, c'est bien plus qu'un teen movie, c'est une chronique envoûtante, pleine de charme, l'histoire d'amour entre un jeune entrepreneur de 15 ans et une jeune femme plus âgée que lui, photographe indépendante, avec dans le rôle de ce jeune garçon, Cooper Hoffman, le fils du regretté Philip Seymour Hoffman.
Tu trouves ça bizarre que je traîne tout le temps avec Gary et ses potes ?
Jamais je t'oublierai, je te jure. Et tu m'oublieras pas non plus.
Caméra A, caméra B, clap, action. J'arrive, Dante.
Franck Vallière qui trépigne sur son siège.
Paolo Sorrentino et Paul Thomas Anderson sont mes deux réalisateurs préférés. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au cinéma depuis 25 ans. Donc forcément, je ne vais pas dire du mal de Licorice Pizza. Et il renoue avec certaines de ses anciennes amours, comme Punch Drunk Love, en moins lyrique, en moins poétique. Et peut-on vraiment dire que c'est une histoire d'amour ? C'est surtout une histoire d'admiration, je pense, entre deux personnes qui sont un peu décalées en termes d'âge. Mais entre une jeune femme, disons de 25 ans, qui est encore restée très jeune dans sa mentalité, qui cherche à s'extirper de son contexte familial et sociétal, et un jeune homme très brillant mais très jeune, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il a 15 ans, mais qu'il a déjà une mentalité très particulière et très adulte. Et c'est le vont-ils arriver à s'aimer, parce qu'ils ont tout potentiellement pour le faire. C'est brillant, ça dure 2h20, et on retrouve le père de DiCaprio, par exemple, George DiCaprio, qui est là. Je suis persuadé, Victor, est-ce que tu as remarqué à quel point... Je suis persuadé que c'est John C. Reilly qui joue le personnage de Frankenstein qu'on voit.
C'est John C. Reilly, c'est un caméo de John C. Reilly, oui,
j'en
évidemment.
J'en étais sûr, il n'est pas crédité.
Mais oui, mais il passe juste une petite tête dans le coin, mais ça fait plaisir de le retrouver dans le cinéma de Paul Thomas Anderson.
Il se passe des choses avec la présence de John Peters, qui est donc le véritable amant de Barbara Streisand à l'époque, qui est joué par Bradley Cooper. Mais c'est un summum de cinéma, voilà. Et c'est tout ce que, par exemple, n'arrive pas à faire un film qui est très surestimé, aussi surestimé que Xavier Bertrand, Une veille de primaire à LR, qui s'appelle Don't Look Up et que tout le monde peut voir sur Netflix.
C'est vachement bien, Don't Look Up.
Non, c'est pas terrible.
Oh là là.
C'est-à-dire qu'avec un...
Trop de digression, là. Alors, donc, c'est un autre débat sur un autre film.
Voilà, c'est une maîtrise parfaite. Il n'y a plus les plans qui polluaient potentiellement le cinéma de Paul Thomas Anderson à ses débuts, c'est-à-dire des plans à la Scorsese, très en mouvement, etc. Il fait confiance à ses situations, on est bien avec eux. Mais là, je peux en parler pendant des heures.
Oui, il a Victor, aimé. Alors, on va écouter Victor aussi un petit peu.
Non, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Franck quand il citait Punch Drunk Love. Et c'est une évidence quand on parle de ce film, Licorice Pizza, parce qu'il revient justement à une véritable histoire d'amour. Et à la différence du début de sa carrière où Paul Thomas Anderson avait besoin de prouver des choses et donc il avait besoin d'en mettre partout. Et moi, c'était quelque chose que j'aimais bien quand même. C'est-à-dire, je pense que Magnolia fait partie de mes films préférés de tous les temps parce qu'il y en a partout. C'est 3 heures où ça te dégueule à la gueule, mais ça te dégueule avec talent. Et bien là, du coup, il peut revenir à quelque chose de plus resserré. Je vais pas utiliser cette expression un peu pompeuse qui est le film de la maturité, parce que je trouve que ça n'a jamais vraiment quelque sens. Mais j'aime bien cette idée de, justement, vu qu'il n'a plus rien à prouver, il peut aller dans un cinéma un peu plus de l'intime. Il peut justement resserrer le dispositif. Il peut te raconter une histoire d'amour qui va être composée de quelques scénettes qui s'enchaînent et qui, à travers celles-là, vont voir se développer les personnages et vont justement voir se développer de l'intime. Je trouve ça très beau et très très fort ce qu'arrive à faire Paul Thomas Anderson, qui est toujours sur le fil et qui, dès sa scène d'intro, par une sorte de travelling qui suit deux personnages qui arrivent à une photo de classe et le dialogue ne s'arrête jamais. jamais et la puissance monte encore alors que les enjeux sont pourtant assez ridicules et qu'on ne les connaît pas encore et qu'on commence à les découvrir. Il y a du cinéma en fait là-dedans. Ouais. Dès les premiers instants, c'est un film de cinéma qui est un plaisir à découvrir sur le grand écran et qui donne envie justement d'aller en salle, aller voir Licorice Pizza, c'est un bonheur. Ah là, il faut que je le dise. C'est un peu un film de la maturité.
On écoute l'avis du public pour ce film de la maturité.
J'ai plutôt bien aimé. Après, moi, j'avais des très très grosses attentes et je m'étais fait une idée du film plus sentimental, moins loufoque et moins distancié. Et en soi, c'est quand même une expérience que j'ai aimée quoi.
Moi, je suis plutôt fan. Voilà, il nous ramène dans une belle époque. Des années 70, niveau musical toujours aussi impeccable et puis beaucoup de fraîcheur avec ces deux jeunes interprètes.
J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé des éléments de ces films précédents que j'aimais déjà et j'étais contente de découvrir un nouveau film du réalisateur.
Eh oui, on n'a pas mentionné aussi cette bande-son absolument dingue, un petit bijou.
Et puis elle est travaillée, parce qu'il y a Life on Mars de Bowie qui était un classique, mais il l'amène d'une telle façon complètement inattendue.
Si on veut parler de la bande-son, est-ce que vous savez pourquoi le film s'appelle Licorice Pizza?
Oui, c'est le nom de disquaire.
Ben oui, et puis même Licorice Pizza qui se traduit littéralement pizza au réglisse, soit le vinyle.
Ah. C'est un disquaire à San Fernando, je crois, c'est ça?
Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, Victor?
Oh là
je
là.
Me demande. Allez, on passe à un autre film, Mes frères et moi, présenté à Cannes en 2021, le premier film de Johan Manka qui va vous émouvoir avec une fratrie très attachante. Donc, c'est l'histoire de Nour, un garçon de 14 ans qui vit en banlieue avec ses trois frères et sa mère malade. Un jour, il rencontre une prof de chant lyrique et se découvre alors un talent insoupçonné pour l'opéra.
Quoi ? Je vais commencer à ramener du bif à la maison toi aussi.
Le premier qui me gonfle, j'en colle pour deux mois de plus.
Et toi, bosse, toi !
C'est bien ça.
Ton frère, il part en couille. Il me fait le coup d'aller faire du chant, genre Maria Carré, tu vois.
Poiké,
fais du chant. Hé, je ferme ta gueule, t'as compris ?
Maman, je te présente la fille qui nous apprend à chanter.
Votre fils, voilà, il a du talent. C'est comme ça, c'est en lui. Et il faut pas qu'il passe à côté de cette chose.
Alors, Franck ?
Un très joli film, et pourtant je partais à reculons parce que l'idée du film sociétal où comment des petits gamins des banlieues un peu wesh vont s'en sortir grâce à un art noble, ça donne parfois au bout des doigts avec Lambert Wilson qui était complètement bourgeois et à côté de la plaque. Et celui-ci, en fait, il y a de réelles velléités qui sont extraordinairement mises en scène et extraordinairement jouées parce que. Et ce sont des jeunes comédiens, mais qui sont professionnels. On retrouve dedans Dadi Ben Salah, qui jouait un des méchants d'ailleurs dans No Time to Die de James Bond, le dernier James Bond. Et ce sont des comédiens pros qui utilisent des situations, certes, de connivence et de proximité familiale pour évoquer le déchirement au sein d'une fratrie qui doit... Je n'évoquerai pas tous les problèmes qu'ils ont à traverser, mais chacun est tellement typé qu'en fait, la fiction se retrouve autour du réel. Et ça donne un petit film bouleversant, qui est plein d'allants et qui change, qui œuvre véritablement vers la médiation, vers la tolérance et toutes les formes de tolérance possibles imaginables. C'est un film très malin et qui change vraiment du discours qu'on peut tenir actuellement ou depuis quelques années sur la représentation de certaines banlieues. Voilà.
On va écouter les réactions à la sortie des cinémas.
C'était très beau, la pellicule c'est un super choix. Je trouve qu'ils jouaient tous très bien et c'était une très belle histoire.
C'est un film superbement joué en fait par ces quatre garçons. Alors Judith Chemla, alors c'est elle qui chante en plus, mais exceptionnelle, et elle a une voix exceptionnelle. Très très beau film, très sensible.
Moi j'adore l'opéra, je trouve qu'effectivement ça peut apporter beaucoup aux jeunes de n'importe quel quartier d'ailleurs.
Judith Chemla, toujours exceptionnelle, j'ai envie de dire. Et puis dans un autre registre, Marché Noir qui prouve une nouvelle fois que le cinéma iranien est plus fort que jamais. C'est l'histoire d'un gardien qui retrouve des cadavres dans une chambre froide et qui appelle son fils pour s'en débarrasser par peur d'être accusé à tort. C'est un film réalisé par Abbas Amini, un thriller haletant qui emmène les personnages très loin dans leurs doutes et dans leurs actions. Victor, tu en as pensé quoi ?
Ça fait toujours plaisir de retrouver en salle encore un drame thriller iranien après la loi de Téhéran qui avait marqué l'année 2021. Après Un héros de Asghar Farhadi qu'on avait découvert à Cannes, ça fait du bien de voir encore des thrillers iraniens diffusés dans nos salles. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec le film, c'est que tout repose sur un jeu de faux-semblants, sur qui ment, qui dit la vérité, quelles sont les motivations de chacun. Il y a plein d'idées de mise en scène très intéressantes sur qui dirige le monde et qui se fait diriger, comme pourquoi on ne filme pas les visages des banquiers, pourquoi on filme justement les petits qui galèrent et qui vont avoir du mal à s'en sortir. Il y a aussi tout un discours qu'a justement le réalisateur sur la place de ces Iraniens qui à un moment ont essayé de fuir le pays, sont arrivés en France et se sont fait re-expulser en France et donc tombent nécessairement dans un trafic parce qu'ils n'ont que ça pour survivre. Alors je trouve justement que les moments sur le trafic sont un peu moins bien rythmés dans le film. Par contre, tout ce qui concerne l'enquête, tout ce qui concerne justement les troubles de son personnage principal qui va devoir à un moment choisir sa place et choisir son camp au milieu d'un imbroglio complet où des cadavres sont cachés dans un jardin, c'est brillant de rythme dans ces instants-là. Il y a notamment une scène de bourse au dollar où justement on spécule sur la valeur du dollar et on vend des dollars à tel prix, on échange des monnaies. C'est assez fou. Le film est très peu distribué, il est dans 13 salles. Ce qui est minuscule.
Donc
et ce qui
faut se dépêcher.
Voilà, ce qui me rend énormément triste. On sait que le cinéma actuellement, c'est compliqué et que très souvent, le destin des films est scellé dès le dimanche. Si Marché Noir est autour de chez vous, soutenez le cinéma iranien et allez-y. Vous allez passer un vrai moment de cinéma.
Et Franck, je vais vous laisser la parole puisque vous vouliez également nous parler d'une ressortie en salle. C'est Le Messager de Joseph Losey, Palme d'Or à Cannes en 1971. Petit chef-d'œuvre du cinéma.
Oui, c'est surtout l'occasion de voir du Joseph Losey en salle. C'est pas tous les jours que ça arrive. Le film est de 71. Losey est un très beau technicien qui amène à une émotion splendide. Palme d'Or à 71, donc c'est pas de la daube, vous en conviendrez. Et c'est lui qui a également fait Monsieur Klein avec un certain, comment s'appelle-t-il déjà, Jean-Pierre Delon, Alain Delon.
Alain Delon, s'il vous plaît.
Voilà, donc,
et puis la bande originale du Messager qui est culte.
Ah oui, bien sûr. Bah, magnifique. Michel Legrand.
Ah oui.
Quel bonheur d'entendre ça.
Ouais. C'est un film sur l'amour et la manipulation qui est vraiment exceptionnel et c'est vraiment pour l'occasion, pour une fois qu'on peut voir un film de Joseph Losey en salle, il faut absolument y aller. Notez par ailleurs que la Cinémathèque lui rend hommage lors d'un cycle qui a lieu jusqu'à la mi-février à peu près avec plein de films en programmation. Il faut se renseigner sur le site de la Cinémathèque par exemple.
Clap. Laurie Choleva sur Europe 1.
C'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux. Franck, Victor, c'est bon, vous
revenez
la semaine prochaine.
On va essayer, oui, on va essayer.
Ça, c'est ma petite angoisse hein, chaque semaine, c'est que vous me lâchiez.
Mais non, reviens.
Bah, vous êtes gentil.
C'est chauffé en plus ici. Donc.
Bah, c'est ça, il fait bon, c'est convivial, on passe un bon moment. Pourquoi s'en priver ? La semaine prochaine, Ouistreham au cinéma, nouveau film d'Emmanuel Carrère et c'est Juliette Binoche qui nous en a parlé aujourd'hui dans Clap. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma, il y a du choix. Vous avez vu, on vous a présenté énormément de films. Donc ne manquez pas ce rendez-vous dans les salles obscures.
Europe 1, 14h-15h, Clap, Laurie Choleva.